Et bonjour tout le monde. Alors ça va pas être ouais, c'est pas le bonheur, hein. C'est pas le bonheur. Encore une fessée à l'extérieur. Je suis avec Gâteau, je suis avec Kev. Il y a peut-être Tonton qui va nous rejoindre. Comment ça va, messieurs?
On essaie, écoute, on peut pas dire que ça va puisqu'on a perdu et puis on n'est pas forcément très content. Mais sur la santé, on est là, on essaie, hein, écoute, ça tient, on va dire que ça tient.
Et toi, Kev?
Moi, ça va pas du tout.
Vas-y,
La
balance.
seule, la seule chose qui me satisfait, c'est de pas avoir gaspillé 1000 euros pour être allé à Milan parce que j'ai pas trouvé de place pour y aller. Et Dieu merci. Donc voilà. Au moins, je ne me fais pas de à chaque fois une énième désillusion à me taper un déplacement à l'extérieur avec cette équipe qui, à l'extérieur, n'est pas une équipe mais n'a pas de. Bref.
Bah justement, je vais te lancer là-dessus, quoi. La première question, c'est bah ouais, comme tu le dis, à l'extérieur, on fait que de la merde. Comment est-ce que tu l'expliques?
Ben, il y a une stat qui est sortie en cours de match, là, à la fin du match. 11 derniers déplacements, c'est 2 victoires. Comment je l'explique? Ben, à un moment donné, il va falloir quand même. Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Voilà, caca culotte. C'est ce qui résume notre équipe à l'extérieur. Et depuis quasiment 12 ans, on a été racheté par QSI. Le dernier déplacement qui m'a donné des frissons, qui nous a permis de se qualifier, hein, d'accord? C'est Stamford Bridge à 11 contre 10. Voilà. C'est la dernière fois que
Avec
sur un
la
match
coupe de tout.
retour où j'ai kiffé, où j'ai fini quasiment à poil dans mon salon, etc. etc. Mais quoi, il y a eu un super match. On avait fait un super match aller parce qu'il faut bien inciter, un super match aller contre le Barça au Camp Nou, on leur met une volée. Enfin, un super match aller à Munich. Mais en dehors de ça, honnêtement, c'est famélique. Ce qu'on propose à l'extérieur, c'est famélique. Ça me saoule. Là, en plus, tu as tous les ingrédients. Tu fais une mauvaise entame de match. Tu mènes un zéro. Tu mènes un zéro contre le cours du match. Et derrière, encore une fois, tu fais n'importe quoi. Tu fais des erreurs. Tu fais tout pour donner à l'adversaire le droit d'y croire alors qu'ils sont dans une mauvaise passe. Je sais pas, honnêtement, j'ai l'impression que c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme et ça m'énerve.
Ok. Vas-y, Gâteau, toi, t'es sur les performances du PSG à l'extérieur qui ressemblent chacune à rien du tout, quoi.
Écoute, quand on a des circonstances comme ça, on sait qu'on a une difficulté à l'extérieur. Il faut quand même responsabiliser les joueurs. Savoir qu'aussi les joueurs ne sont pas. On a l'impression que les joueurs n'ont pas appris des différentes défaites. Ils sont là depuis un moment, mais ils n'ont pas appris. On a fait un ménage cet été. Et on a l'impression que, y a des joueurs qui sont inhibés par peut-être par le prix de leur transfert ou par le poids du club ou l'importance du club médiatiquement. En tout cas, sur le terrain, on a des trucs intéressants, mais à l'extérieur, en Champions League, bah, tu peux perdre des matchs, mais à un moment, il faut quand même se réveiller. Et puis, il n'y a pas un moment où on voit le PSG en train de se dire que, tiens, on n'arrive pas à gagner le match, mais on va pas le perdre. Et on n'a plus ça. On n'a plus ça. Et je manque de leadership à l'image d'Ibrahimovic, ces gens-là. Même si avec eux on avait un plafond de verre, on avait quand même un certain esprit qui pouvait nous porter. Mais là, franchement,
Mais tu sais,
je
même, tu vois, par
déteste.
exemple, quand on regarde les stats, même en Ligue 1, t'as pas mal de matchs où justement qu'on a joué à l'extérieur, tu prends Toulouse, là j'ai Clermont sous les yeux, t'as pas mal de matchs où t'es beaucoup plus en difficulté à l'extérieur qu'à domicile.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est fou parce que t'as des choses qui se mettent en place, mais c'est quoi? C'est mentalement du coup? C'est mentalement que l'équipe elle est incapable de tenir? Qu'est-ce que t'en penses, Kev? C'est parce que. Je veux dire,
Non, mais
t'arrives
Gâteau.
à développer un football, t'arrives à développer t'arrives à voir des choses, des intentions tactiques, des intentions stratégiques quand tu joues à domicile, puis tu vas à l'extérieur, c'est la déliquescence. C'est quoi? C'est mental.
Non, mais déjà, en fait, déjà, en termes de cette saison avec cette équipe, la gestion d'un match serait quasi impossible. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'as pas de leader au milieu de terrain. Malgré que Warren fasse d'excellentes prestations, ce n'est pas un leader. Ugarte, et malheureusement, il a fait 5 très bons matchs, mais derrière, malheureusement, pour le moment, il est dans une période où il est catastrophique. Aujourd'hui, il me fait beaucoup de mal au milieu de terrain. On n'a pas de leader, tu vois. Warren Zaïre-Emery est un leader physique, on va dire, par rapport à ses courses, l'intensité qu'il met, etc. Mais c'est malheureux, c'est un jeune joueur. On ne peut pas lui demander de prendre l'étoffe d'un capitaine de milieu de terrain. Ougarté, il ne dit pas un mot. Tu vois, en fait, il faut se dire une chose. Et c'est très simple. Au jour d'aujourd'hui, qui peut permettre à cette équipe de maîtriser un match? Quel joueur et à quelle ligne va te permettre, dans des temps faibles, de maîtriser une rencontre?
Il n'y en a pas. C'est une réflexion même que j'avais par rapport à Donnarumma. Donnarumma qui fait un très bon match, mais à côté de ça, tu le vois une ou deux fois gueuler sur la défense, mais à aucun moment il s'impose en gueulant vraiment sur la défense où tu sens qu'il est écouté. Et bon ben voilà, mais même si tu prends le milieu, c'est à se demander si on n'a pas trois mecs qui devraient être remplaçants dans l'idéal, mais bon. Dans un monde parfait, c'est des joueurs très prometteurs, mais est-ce qu'ils ont l'étoffe pour être titulaires au PSG? À voir. Bon, bah maintenant, je vous propose, on va commencer à rentrer dans le dur. Hein, on va prendre le couteau, on va l'enfoncer dans la plaie. Et je vais te demander, Gato, t'as pensé quoi du match? T'as pas de micro,
Gato? Écoute, ce que j'ai pensé du match, c'est un match qui était pas bon du côté du Paris Saint-Germain. Surtout qu'on tombe contre un Milan qui n'avait jamais marqué durant la phase de poule de Champions League. Après, on l'avait déjà dit, attention, dans le sens où, soit parce que Milan n'était pas terrible, qu'ils vont pas faire. On a déjà vu des équipes ne avoir zéro point de la première à la troisième journée et de la quatrième à la sixième se qualifier. Donc ça, on était vigilant là-dessus. On n'avait pas vendu la pause de bourse avant de le tuer. Maintenant, j'étais déçu pour les cadres, on va dire, de ces collectifs-là. C'est pas forcément des cadres en soi définitifs, mais on a certains cadres. Mbappé, on a Hakimi, qui m'ont quand même... on a l'impression qu'ils étaient inhibés, on a eu des problèmes sur Léao, les occasions de Mbappé, Vitinha qui était pas trop dedans. En fait, les joueurs, collectivement comme individuellement, ils étaient pas spécialement bons. L'adversaire, il a été bon sur certains moments et à l'image de Suci, quand même, par exemple, qui a transpercé notre milieu de terrain. On reviendra individuellement sur chaque cas et collectivement, on se regardait, on n'était pas unis. Et ça, c'est vraiment dérangeant.
Tonton, t'es avec nous?
Oui, petit problème technique, mais pas de
souci. Oh, t'inquiète. Et Tonton, d'ailleurs, avait été trompé par une communication qui avait été hasardeuse de ma part, mais bienvenue à toi. Et on en était dans un débrief plein de bonne humeur, comme tu peux le voir, aux têtes des uns et des autres. Et la question, c'était, du coup, toi, Tonton, t'as pensé quoi du match?
Franchement, beaucoup de frustration dans le sens où énormément de déchets techniques de la part du Paris Saint-Germain, beaucoup d'occasions gâchées, beaucoup d'individualités qui sont d'habitude essentielles dans ce PSG qui n'ont pas été au niveau ce soir. Je pense qu'on reviendra sur les individualités plus tard, donc je ne vais pas revenir dessus, mais tu as la possession, c'est bien, mais tu n'en as pas énormément fait grand-chose. Tu as été très, très peu dangereux. Et beaucoup de frustration dans le sens où, quand tu as été dangereux, tu n'as pas été assez clinique. Je veux dire, tu as eu plusieurs occasions qui étaient très dangereuses, que tu n'as pas converties. Et Milan, pour le coup, eux ne se sont pas gênés d'être dangereux pour le coup. Et même si leurs deux buts, tu as des choses à redire. Hein, tu peux vraiment critiquer l'attitude des joueurs sur les deux buts qu'on prend. Beaucoup de frustration, en tout cas pour ma part.
Je te laisse enchaîner, Kev.
En fait, ce qui est frustrant, c'est que sur la première mi-temps, tu subis énormément de frappes, mais tu te crées énormément de grosses occasions. Et en fait, il y a une chose aussi qui est très très importante dans le football de haut niveau, et même dans le football, peu importe le niveau, c'est qu'aujourd'hui, dans un match, il y a des moments clés. Et dans ces moments clés, il faut être efficace dans les deux surfaces. Et je suis désolé, aujourd'hui Mbappé...
On parlera des individus après.
Mais non, mais les en fait, ça fait partie de ce match.
Oui, bien sûr.
Les deux occasions qu'il a, je suis désolé. Avant la mi-temps, si tu mènes 2-1 là-bas, c'est pas le même match. C'est pas le même match. Donc, je veux bien que collectivement, on fasse pas une grande partie. Mais encore une fois, il y a des attitudes sur le terrain qui ne trompent pas. Il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a une équipe qui, en première mi-temps, pour moi, a été coupée en deux à la perte du ballon. Donc, certes, les trois défenseurs centraux ont été lamentables défensivement. Hein. Mais quand tu te prends des vagues toujours en égalité numérique, eh bien, j'avais l'impression de voir une équipe qui n'en est pas une. Et c'est-à-dire, quand en fait, j'avais l'impression de prendre des vagues comme quand on était sous Galtier ou Pochettino, avec Messi, Neymar et Mbappé. Voilà. Notre milieu de terrain se faisait transpercer très rapidement, avec un joueur interligne qui se faisait trouver, qui fixait notre défense, et qui du coup, en fait, c'était trop facile pour le Milan. C'était trop facile pour le Milan. Je suis désolé, tactiquement, et j'espère que Luis Enrique, parce que, voilà, faut quand même... Même moi, je suis très, très énervé de cette prestation. Il faut prendre un peu de recul. C'est un nouveau projet, nouveau coach, etc., etc. Tout ne peut pas être parfait en l'espace de 3 mois. Mais concrètement, tactiquement, j'espère, et j'ose espérer, bien sûr, que Luis Enrique va regarder. Mais tu ne peux pas avoir, au bout de 15 minutes de jeu, une équipe coupée en deux comme ça. Ce n'est pas possible tactiquement. En fait, tu ne peux pas avoir ton milieu de terrain qui se fasse sauter sur une passe clé à chaque fois.
Et c'est ce que j'avais envie de te dire. C'est toi, tu étais en train de dire qu'on s'était procuré des occasions. Alors oui, il y a les deux ratés de Mbappé, mais le moment où tu as vraiment des occasions, où tu as vraiment un clair avantage en termes de surnombre et tout, c'est la 15 première minute. Dès la 15e minute, bah, tu en es réduit presque à des exploits personnels. C'est même pas une mi-temps, en fait, que tu tiens dans un déséquilibre où tu peux t'en prendre, mais tu peux en mettre. C'est en fait, on était dans des équilibres là pendant 15 minutes et ensuite de ça, bah, on pouvait juste en prendre, en fait.
Moi, je trouve que c'était offensif dans les deux sens parce qu'on aurait pu aussi avoir énormément d'occasions parce qu'après, on a eu énormément de déchets techniques, encore une fois, à l'image du match à Newcastle et à l'extérieur, on a eu un déchet technique monumental. Je pense que Milan n'a pas eu. Et forcément, quand tu attaques et que les joueurs qui sont utilisés dans les bons espaces face au jeu, etc., n'ont pas de déchets, eh bien, tu te procures forcément beaucoup plus de situations de déséquilibre qu'une équipe qui a autant de déchets. Et malheureusement, moi je trouve qu'en termes d'attaque et de possibilité d'attaque, je pense qu'on est devant le Milan. Mais techniquement, ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Il y a trop de déchets, il y a trop d'incompréhension entre les joueurs, tu vois, entre le passeur et le receveur. Il n'y a pas eu cette connexion. Il y a un joueur qui demande un ballon en profondeur, on lui donne pied, donc du coup, on est pris à contre-coup. C'est dingue. Il y a eu trop de mauvais choix, trop de déchets qui font qu'aujourd'hui, encore une fois, tu te retrouves à courir après un score, forcément à laisser des espaces, et en plus de ça, mis à part quoi, le poteau de Kanguin en seconde mi-temps, on a quoi en seconde mi-temps?
Ah, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Mais justement, pour vous aussi, vous justifiez surtout la non-performance du Paris Saint-Germain par l'attaque, où vous voyez des défaillances ailleurs qui aussi expliquent, etc. Comment est-ce que tu situes? Je te laisse réagir, tonton, et après on passera à Gâteau, et à Gâteau, je lui poserai une autre question aussi. Vas-y, tonton.
Il y a eu des défaillances à chaque étage pour moi. Je ne vais pas faire les top et flop parce que c'est trop tôt, mais tu as une défaillance claire au niveau de la défense, tu as une défaillance claire au niveau du milieu, tu as une défaillance claire au niveau de l'attaque. Donc, quand tu as autant de défaillances dans chaque compartiment du jeu, logiquement, c'est compliqué.
Gâteau, même question, mais au-delà de ça, j'ai envie de te demander, est-ce que ce n'est pas la première fois que les ailes du Paris Saint-Germain sont vraiment testées?
L'adversité des ailes, c'est vrai qu'on a eu du Montpellier la semaine dernière. On disait que c'était bien, c'était fluide. On a dû voir les ailiers descendre, puis en fin de compte être déstabilisés dans le sens où on a eu quand même justement les ailiers adverses mettre à mal nos latéraux. Donc ce qui fait que si nos latéraux ne sont pas bien, nos offensifs ne vont pas forcément être bien et bien servis. En tout cas, la relation entre, par exemple, entre Hakimi et Dembélé a plutôt été coupée. Côté gauche, c'était pas super non plus. On a vu quand même Loftus-Cheek faire du déplacement de fonction et mettre à mal Lucas Hernandez à un moment. Donc,
même Pušić sur une jambe.
Comment?
Même Pušić sur une jambe qui a pris au passage par un Hernandez.
C'est plus le même homme qu'au match aller. Donc, c'est pas forcément la première fois, parce que contre Nice aussi, on a eu cette épreuve-là. Hein. Faut pas non plus oublier. On avait perdu au Parc des Princes. Ça veut pas dire forcément qu'on fait un mauvais match si on perd. En tout cas, là, aujourd'hui, on a perdu parce qu'on a fait un mauvais match. Ça, c'est la solution pour moi, de se dire qu'on a perdu, mais pourquoi? Parce que nos ailes étaient bloquées comme... voilà pourquoi tu as posé la question. Mais surtout, l'état d'esprit aussi de tous les joueurs. À chaque ligne, comme on l'a dit,
La raison pour laquelle je te pose la question, Gato, c'est depuis le début de la saison, on s'enthousiasme beaucoup, notamment sur la position d'Hakimi qui va se recentrer, sur cette utilisation des ailes, sur cette manière de compenser avec la défense à 3. Et est-ce que justement, bah, tout à coup, dès que tu mets un latéral, alors personne ne pouvait anticiper que Léao fasse le match qu'il a fait ce soir. Le mec, il se réveille ce soir, quoi. Il ne pouvait pas attendre un autre moment pour se réveiller. Ce soir, il nous sort une prestation de psychopathe. Bon, mais là, tu te retrouves face à un ailier qui pose problème. Et ben tes ailes, elles ont explosé en éclats. T'as Pušić qui t'avais bon, Loftusic qui passe dans l'axe, mais t'as Pušić qui enfin il était genre c'était la promenade des Anglais côté droit et Léao côté gauche, c'est même pas la peine d'en parler. Donc c'est la première fois en fait que le système, la manière avec laquelle Galtier, enfin pas Galtier, lapsus, la manière avec laquelle Enrique a trouvé un équilibre, c'est la première fois que cet équilibre est testé et le test il est vraiment pas concluant, moi je trouve. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est vrai que c'est pas concluant. C'est vrai que c'est pas concluant. Mais rappelez-vous, au match aller, il y a eu une petite séquence entre 5 et 10 minutes où Hakimi a eu des difficultés face à Léao avant que Léao plonge complètement. À un moment, Hakimi, c'était difficile. Après, il a repris la chose. Mais est-ce que quand t'es un latéral et que tes centraux aussi sont pas sûrs, t'es pas sûr de toi-même, t'es pas sûr de ce qui se passe derrière, t'es pas sûr de ce qui se passe devant, t'es pas sûr de ce qui se passe au milieu de terrain, tu fais quoi? C'est-à-dire que quand tu es en difficulté sur le terrain, et à un moment, il y a des gens qui doivent faire du dépassement de fonction, qui doivent venir t'aider. Zahir Emery l'a fait pour Ugarte parce que Ugarte n'était pas bon aujourd'hui. Zahir Emery, il ne peut pas non plus être à droite, comme à gauche, plus au milieu. Marquinhos, en termes de communication, son langage corporel, je suis désolé, à chaque fois, il y a un match à l'extérieur, ce monsieur, c'est Likefi. À qui tu te fies dans cette équipe-là? C'est problématique. Et donc, ça ne veut pas dire que ça explique que nos latéraux n'ont pas été bons aujourd'hui, mais c'est une raison supplémentaire pour dire que, bah, en fait, quand tu cherches de l'aide, bah, tu ne la trouves pas. Parce que les hommes qui doivent être tes leaders, ils aussi ne sont pas là pour communiquer avec toi.
C'est trop facile de dire que. Mais... Parce que tu as Marquinhos.
Non, ils n'ont pas été bons. Hakimi aujourd'hui, c'est lui. Hein. Ce n'est pas Marquinhos. Hein. Hakimi, c'est lui. Hernandez, c'est lui. C'est eux, individuellement, c'est eux. Hein. On n'a pas envie de dire que c'est à cause de Marquinhos. Que...
Non, non, mais Marquinhos, défensivement, il fait un match lamentable. Mais concrètement, en termes d'attitude, c'est le mec, il allait au four au moulin, il a été chercher des pressings en tant que numéro 9 parce que personne ne voulait se bouger le cul. Il fait des percées, tu vois, le ballon qu'il envoie à Dembélé à la fin, la passe, elle est exceptionnelle. C'est une passe exceptionnelle que Dembélé marche sur le ballon. Franchement, Marquinhos, il fait un match catastrophique défensivement. Mais dans les attitudes et dans moi, le langage corporel, eh bien, moi, j'ai vu des choses qui m'ont plu. Et pourtant, je le défends beaucoup, hein, mais défensivement, il m'a fait de la peine.
Ce soir.
Mais bon, bref, c'est pour parler de ce que tu disais, vu que tu peux me reposer la question pour que je me réidentifie correctement.
Pas de souci. Est-ce que les ailes, c'est la première fois qu'elles sont testées. J'avais jamais vu une équipe réussir à ce point, réussir à passer dans le dos des latéraux. Et est-ce que au fond, bah, tout ce qui a été mis en place par Enrique depuis le début de la saison trouve bah, là un mur, c'est-à-dire que maintenant, tu as l'impression qu'il suffit de mettre un ailier qui est un peu cohérent pour réussir à transpercer, passer derrière et tout déséquilibrer. Quoi.
Ben en fait, pour moi, la problématique, c'est que vu que Marquinhos est ta plaque tournante sur ton jeu avec ballon, forcément, en fait, tu l'obliges à jouer plus haut que les autres centraux. Et donc, quand le joueur le plus dangereux de l'équipe adverse est en forme et toujours en fait, à la récupération, en capacité à mettre en difficulté un joueur qui est en train d'avancer, eh bien, t'es mort. T'es mort parce que, rappelez-vous, en fait, ce schéma hybride avait été utilisé par Pochettino contre le Real Madrid, avec un Danilo. Mais Danilo n'était pas la planque tournante, en fait, du jeu avec ballon. Donc forcément, dès qu'Hakimi était pris, Danilo était déjà, en fait, en position de sûreté pour compenser Vinicius. Là, étant donné que Marquinhos, c'est vraiment le joueur qui fait partie, en fait, de notre circuit de passe préférentiel, eh bien, il est concentré sur la totalité de ce qu'il doit faire avec ballon et à la perte, vu qu'on a fait énormément de déchets techniques, eh bien, on est tout le temps pris dans notre dos. Et malheureusement, il s'est retrouvé toujours entre deux et il n'a jamais été en capacité d'être proche soit de Léao pour l'empêcher de prendre de la vitesse ou soit assez en couverture pour vraiment l'accompagner et le bloquer dans sa prise de vitesse. Et ça, tactiquement, c'est quelque chose qui est important parce que sur cet aspect-là, Hakimi, eh bien, il en revient à ce que je disais. Hakimi n'était pas latéral aujourd'hui. Quand on avait le ballon, Hakimi était milieu de terrain. À la fin du match, Il a été repositionné à droite, etc. Mais Hakimi est trop à l'intérieur du jeu. Ce n'est pas son jeu. Il ne nous a servi à rien. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été bon. Et encore une fois, on retrouve certaines failles qui ont fait que voilà, aujourd'hui, ben, tu es en difficulté dans ton dos, tu te fais prendre. Et en plus de ça, individuellement, tu as permis en fait, aux ailiers adverses d'être bons. Il y a eu un rapport de force que tu as perdu.
Donc, tonton, t'as une lecture, toi, là-dessus ?
Alors, t'as dit, il suffit d'avoir un ailier un peu cohérent. Léao, c'est pas un ailier un peu cohérent.
Oui, c'est sûr. Mais t'avais, si tu veux,
de ce que tu peux faire okay, à ce poste.
Dans ce, cas, dans ce cas-là, t'as un poussilite sur une jambe qui s'est baladé. C'était la promenade des angles de côté droit.
Ah, mais après, ça c'est l'autre côté. Oui, ça c'est deux côtés différents. Lucas Hernandez, il a pas fait son match. C'est une chose. Après, oui, Pulisic et Léao, c'est deux classes différentes en tant qu'ailier. Par contre, je suis désolé.
Pulisic sur une jambe, t'en trouves d'autres.
Après, il n'était pas sur une jambe, les gars. Apparemment, finalement, ce week-end, il était vraiment au repos pour fatigue musculaire. Hein.
Bah, il s'est re-blessé, là, a priori. Hein.
Ouais, moi, je pense honnêtement, quand tu te blesses...
90e, ouais.
Ouais, c'est quand même bizarre, hein, cette blessure-là qui arrive...
Comme par hasard, quand Milan gagne, ouais. Oui, bien pense sûr. Il perdrait sincèrement. Il courrait voilà, comme ça. Un lapin encore, là.
Non, tu vois, mais...
Si on avait pu le choper, ouais, mais il fallait avoir les
sous-sous. Théo Hernandez aussi, il s'est bien fait mal à la 97e aussi, ouais.
Okay, Mike Maignan aussi qui met 40 sous, enfin bon, bref, c'est pas le débat.
Laissez-moi un peu ma naïveté. Alors, juste pour revenir sur les 15 premières minutes qui, à défaut d'être satisfaisantes, ont été passionnantes, parce que là, ne nous cachons rien, la deuxième mi-temps, c'était purgesque, tu dois... Enfin, c'était fou. Mais les mecs qui marchaient sur le terrain, ouais, ils faisaient la passe dans la moitié milanaise, mais ils marchaient sur le terrain alors que tu devais marquer un but. Enfin, bon.
Justement, tu vois qu'on nous a posé la question, est-ce que les centraux, vous le sentez comment ce match, finalement, on aurait pu y jouer, tu vois. On aurait été tout autant en difficulté face à Léo, oui. Finalement.
Ça, si tu essayes de sauter, tu sauteras peut-être un peu plus haut que Skriniar, ça c'est sûr, parce qu'il nous a montré qu'il fallait qu'il se recycle dans le basket.
Skriniar, on a un truc en commun, je te rappelle.
Oui. Mais, et donc, oui, je sais plus, oui, sur les 15 premières minutes où c'était un peu le bordel et tu as eu beaucoup de ballons à l'avant, mais en gros, on a complètement sauté le milieu. Vous avez remarqué ça? Et comment vous l'expliquez? Ah, pourquoi sur ce match, même au fond, dès la première minute, on n'a quasi pas eu de milieu? Comment vous l'expliquez?
Mais parce qu'en fait, c'est aussi une des premières fois que
pendant 2 secondes. On a une donation de Tino Pinto. Alors, je ne sais pas c'est quoi la monnaie, mais
alors, c'est du dollar canadien, regarde. Ouais, c'est dollar pour Canada et dollar.
Ah, bah écoute, je suis
donc, merci à toi, Tino.
Merci, frérot. Cas, on est ensemble dans la défaite et dans la victoire.
Je laisse Kev continuer.
Non, mais en fait, aussi, un truc qui m'a. En fait, je ne sais pas quelle a été l'approche de Luis Enrique. Hein. J'imagine qu'il avait analysé certaines choses. Mais c'est la première fois aussi que je vois Mbappé et Dembélé vraiment coller la ligne la quasi-totalité du match. Le problème qu'il y a, c'est que Dembélé est quand même vachement aidé par Hakimi et Mbappé. Ça n'empêche que je ne défends pas Mbappé, hein, parce que vous verrez après quand on va analyser individuellement, je vais le fracasser. Mais Mbappé est quand même vachement laissé seul et la complicité avec Vitinha est moyenne. Donc, je sais pas. Tu vois, il y a des chances que j'ai beau analyser, retourner dans ma tête. Tu vois, on s'est fait bouffer par les ailiers milanais, mais nous, on a joué quasi de la même façon. Et malheureusement, même si Dembélé fait une super première mi-temps, on n'a pas été capable de faire autant de différence individuellement. Pour déséquilibrer la défense milanaise, parce que attends, c'est une défense qui n'est pas non plus exceptionnelle. Hein, faut pas me vendre. Donc, c'est vrai que concrètement, on a beaucoup sauté le milieu de terrain parce que j'ai l'impression, moi. Qu'on avait la mission de travailler les latéraux en un contre un. Mais en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, on en est réduit, et c'est malheureux à dire ça, hein, à des exploits individuels de Dembélé qui, en termes de stats, n'est pas du tout en forme, pour pouvoir avoir des occasions de but. Enfin, je ne sais pas si on s'en rend compte. Tout est passé quasiment du côté à Dembélé sur cette première mi-temps. Et deuxième mi-temps, nous n'avons pas d'occasion. Voilà.
Mais même si on va dans le sens de ce que tu dis, en fait, le plan, c'est de lancer les ailiers, mais le problème, c'est que ça n'a pas marché parce que nos ailiers.
Non, c'était même pas de lancer. C'était même pas de les lancer parce qu'on les a trouvés très, très rarement en profondeur. Ah, c'était oui. De les trouver long de ligne pour travailler le latéral en un contre un.
Mais on était, ils n'étaient jamais en 1 contre 1. Ils étaient toujours du 2v1.
Déjà, à partir du moment où d'un côté, avec Mbappé, Vitinha a été très très loin de Mbappé, j'ai trouvé, alors que d'habitude, ils sont plutôt proches. Ton latéral, Hernandez, qui est un défenseur central quand tu as le ballon, mais en fait, tu peux, c'est facile de défendre pour Milan. Tu vas juste prendre ton joueur à deux, régler, c'est ce qui s'est passé tout le match. Et étant donné que Hakimi a été quand même vachement avec le ballon réaxé au milieu de terrain, mais qui n'a proposé que peu de courses dans la profondeur pour casser cet espace, et bien derrière, tu te retrouves aussi avec un Dembélé qui était souvent en position de 1 contre 2. Donc finalement, je sais pas, tu vois, moi je te parle sur une analyse vraiment technico-tactique où je me positionne, où je réfléchis en tant que moi coach, ouais, etc. Sûr, et ça ne me plaît pas. Mais bon, bref, je vais pas m'éterniser parce que j'ai beaucoup parlé jusque-là. Non, et Gâteau m'a l'air très très concentré.
Vas-y Gâteau, si tu veux intervenir, ou tonton, celui qui veut intervenir.
Moi j'ai bugué en fait, parce que je me disais, il ne bouge pas.
Non, moi quand j'écoute, tu vois, j'ai pas.
Non mais Gâteau, ton image a bugué.
Ton vraiment, image, elle a fixé, frère, quand même.
Ah bon, ok.
J'étais en train de me dire, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi stoïque et qui ne bouge pas pendant que je parle.
Non.
On parlait de moi qui ne cligne pas des yeux, mais admirez ça. Si là, il n'a pas flex, c'est incroyable.
Non, mais franchement, comme l'a dit tonton tout à l'heure, à tous les étages, il y a des problèmes. Tu parles de la défense, ton Aroma, tu peux venir ce que tu veux, il fait un bon match, mais il est inhibé par le stade. On le voit, il n'y a pas de souci, tu reviens dans ton ancien club, etc. Ça s'est mal passé. Donc, tu as des petits pépins. Ok, malgré tout, il fait son match. Sur les buts, les gens vont être durs ou pas. C'était évitable sur le premier peut-être, mais en soi c'est pas lui.
On n'est pas sur l'analyse individuelle.
Ouais. Mais en gros, à chaque étage, donc gardien, défense, milieu de terrain, attaque, coaching aussi. Donc moi je sais pas qui. Collectivement, je sais pas comment on va s'en sortir. Parce que si on fait le schéma dans le sens où on a des problèmes à l'extérieur, on est bien à domicile, bah si on continue comme ça, on sait pas exactement comment on va gérer le délire. Dans le sens où le match qui s'est passé entre Newcastle et Dortmund, à Dortmund justement, et bah Newcastle a perdu. Ce qui fait que Milan revient à 5 points, nous on en a 6.
On en parlera après ça.
Ah, c'est...
Mais Gâteau, si je peux me permettre, ouais. Et je te pose une question, quand individuellement tu n'es pas au niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Collectivement, en fait, il faut être efficace dans les deux surfaces, avoir un bloc équipe beaucoup plus compact et plus solide. Point final. Et gagner les duels. Gagner les duels. Des putains de duels, il faut les gagner. Tu n'en as pas gagné un ce soir.
Malheureusement.
Si on alors... en a gagné deux, entre la 40e et la 45e, t'es un peu dur quand même.
Tu parles d'Ugarte, qui en a disputé 11 en première et qui en a gagné deux à la fin. Mais toi, du coup, tonton, est-ce que ce pari, qui, l'année dernière, on était zéro, mais est-ce que là, on est devenu une équipe qui est fort contre les faibles et faible dès qu'elle voit de la force?
Ah, je pense déjà qu'il y a quelque chose au niveau mental. Je pense que vous trouverez les chiffres si vous vous amusez à chercher dans les statistiques. Je donne un site au hasard, SofaScore. Tu vas dans les statistiques du match et tu t'amuses juste à regarder le nombre de pertes de balles qu'on fait ce soir. On en fait plus de 100. On en a fait 111.
Contre Newcastle.
Exactement. T'as la référence, Kev. Ça fait deux matchs qu'on fait en Ligue des Champions à l'extérieur et les deux fois. Mais techniquement, mais c'est affolant comme on est pas
c'est
au niveau.
C'est ce que je disais quand t'étais pas là, tonton. Ouais.
Voilà, j'avoue que j'ai raté les 6 premières minutes parce que j'étais dans le mauvais studio. Pas de faute, c'est de ma faute, ça m'apprendra. Mais justement, dans ces deux matchs, s'il y a bien un truc qui ressort, c'est vraiment la difficulté au niveau technique. Quoi. Tu n'y arrives pas. Ugarte, techniquement, il n'a rien réussi. Et dans les duels, il s'est fait bouffer. Tu as l'impression qu'il jouait avec des pots de banane sous les pieds pendant la première mi-temps. Il glissait tout le temps. Tu avais des défauts à chaque ligne. Et je reviendrai sur ces joueurs pour les top et flop, histoire de pas trop spoiler. Mais tu avais des défaillances à chaque ligne. Et forcément, du fait d'avoir des défaillances à chaque ligne, tu pouvais difficilement rendre une copie potable, quoi.
Mais alors pourquoi cette équipe, elle est systématiquement défaillante à l'extérieur? On en revient à la première question.
Mais alors justement, tu vois, j'allais dire, on pourrait dire, ouais, ça rappelle l'époque de Neymar et Messi, mais sous QSI, on a toujours eu ce problème, en fait, même à l'époque de Zlatan, Alex, Thiago Silva. On a l'impression de voir un PSG qui est dans une forteresse au Parc des Princes et qui est très, très difficile à manœuvrer. Beaucoup de grosses équipes se sont d'ailleurs cassées les dents au Parc des Princes. mais dès que tu joues à l'extérieur, c'est d'un coup plus compliqué. Et le seul moment où le PSG a vraiment performé à l'extérieur, notamment une victoire à Barcelone et une victoire au Bayern Munich, ben c'est quand on n'avait pas le droit d'avoir des supporters, mon pote. Donc je me dis que, sous QSI en tout cas, il y a un vrai prisme du PSG à l'extérieur, et je ne suis pas dans le genre superstitieux ou ce genre de choses, mais clairement, il y a quelque chose à travailler mentalement sur les matchs à l'extérieur, parce que c'est inacceptable d'avoir une équipe qui joue le jeu de position, le jeu de possession, le jeu à l'espagnol, technique, tactique, et d'avoir autant d'erreurs techniques dignes du dimanche matin. Je suis désolé, mais Kevzor, il est coach le dimanche matin, je suis sûr que ces joueurs, ils font un match comme ça, ils les démontent.
Non, c'est l'après-midi, s'il vous plaît. Il dit coach
en seigneur. C'est pas le matin, mais, c'est pas le matin. Voilà. Mais...
Excuse-moi, Kevzor, tu joues.
Mais ça très bien, mais parce que Kev voulait réagir.
Luis Enrique, Luis Enrique, il doit les démonter, là, logiquement, avec les exigences qu'il a en termes de technique de vis-à-vis de ses joueurs, il doit les démonter.
Moi, je regarde beaucoup le langage corporel, etc. Mais quand tu vois la gueule qu'il fait sur le banc, je te garantis qu'il a le démon. Mais tu vois, le seul match avec supporter, et je le disais quand tu n'étais pas là, tonton, qui m'a fait vibrer, concrètement, c'est quand à Stamford Bridge, à 11 contre 10, voilà, où on a eu une vraie paire de coronets pour être.
Tu parles du match où Zlatan prend un rouge après le tacle sur
Exactement.
Oscar.
Exactement.
Ouais. Mais il y en a d'autres, en fait. Et c'est cette époque. Tu as aussi le premier match de QSI où on gagne à l'aller contre Barcelone. Je ne sais plus à quel stade, je crois au quart de finale. Il y a Barcelone qui est en PLS. Et ils font rentrer Messi en deuxième
match. Deux matchs nuls.
On fait deux matchs nuls
avec Matuidi qui marque en jeu.
Mon point, c'est qu'à l'époque, moi je ne me souviens plus avec ma mémoire, je ne vais pas me souvenir des détails, mais à l'époque, en fait, toute cette première partie de QSI, la partie en fait où quand il y avait Zlatan, peu ou prou, on n'avait pas ce syndrome de la serpillère. C'est venu
ouais, après. Je te parlais de victoire, Drias, parce que contre le Barça, on fait deux matchs nuls, tu vois. Et juste avant, si je me trompe pas, on élimine Porto ou Valence. Je ne sais plus. Et
alors, attends. Leverkusen.
Ouais, Leverkusen. Ouais, bon, bref, c'est pas grave, de toute façon.
C'était en 2013.
Mais dans les grosses équipes, la seule victoire, si on fait un gros match à Manchester United, quand on se fait balayer par l'équipe C de Manchester United à domicile derrière. Enfin, il y a très peu de victoires à l'extérieur. Et la preuve en est, deux victoires à l'extérieur sur les 11 derniers matchs.
Alors, mais justement, on va se focus un tout petit peu sur le coach. Alors, j'ai l'impression de moins avoir entendu Gâteau, mais je ne sais pas, hein, j'arrive pas à suivre.
Gâteau, je pense qu'il faudrait que tu réinitialises ta caméra, frérot, parce qu'en fait, on te voit vraiment statique, donc on ne sait pas si tu veux réagir ou quoi.
Ah oui bon. Là, tu ne vois pas.
On l'entend, c'est ça le pire. On l'entend très bien, mais c'est juste que son image, elle a fixé, c'est super drôle.
Elle a encore fixé.
ouais,
ok, attendez, les gars.
Je vais poser la question à tonton en attendant. Donc, il y a Tino Pinto qui nous disait tout à l'heure qu'il a trouvé le coaching de Lucho assez pertinent. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Luis... non, à chaque fois, j'oublie son nom.
Luis Enrique, comme tu
voilà, de Luis. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de Luis Enrique sur ce match, toi, tonton?
Alors, je tiens d'abord à commencer par ça avant qu'on vienne m'attraper ma veste, comme ça c'est dit. Je ne vais pas remettre en question tout le travail de Luis Enrique et je ne me permettrai pas, je ne suis pas coach au PSG, si j'étais meilleur que lui, je serais à sa place et pas ici en train d'en discuter. Cependant, il y a des choix que je n'aurais pas forcément fait. On en a parlé d'ailleurs pour ceux qui ont suivi le live ce midi. Moi, j'avais dit que je mettrais bien Lee titulaire à la place de Vitinha et Ramos titulaire à la place de Colo, dans le sens où je pensais que Randall et Vitinha pouvaient tous les deux plus apporter en rentrant en cours de match plutôt qu'en commençant titulaire. Cependant, bien entendu, c'est très facile de dire ça après match et une fois après avoir vu les erreurs. Mais c'était quelque chose que j'avais dit en avant-match et si c'était la seule chose que j'aurais pu corriger, ça aurait été ça. On sait que Luis Enrique, s'il a bien un seul défaut en tant que coach, c'est qu'il est têtu. Donc... on l'a un peu vu, mais cependant, voilà, c'est très facile de juger en après-match, mais voilà, il a fait quelques choix que j'aurais pas fait. Cependant, j'espère que cette défaite, elle va lui servir pour la suite. Le prochain match, c'est Newcastle à domicile, donc normalement, ça devrait mieux se passer. Donc voilà, comme j'ai dit, je préfère une équipe qui a quand même quelques difficultés en ce début de saison et qui va prendre un certain temps pour galérer et qui va quand même progresser, que voir comme l'an dernier une équipe qui était sublime en juillet-août. Et à la fin août, ça a commencé contre Brest. On a commencé à manger le tonnerre de Brest, pour faire un petit jeu de mots pourri. Contre Monaco, ça a été moins ça. Et après, à partir de là, le PSG a régressé sans cesse.
Ok. Gâteau, t'es de retour parmi nous ?
Ouais, je suis là.
On voit toujours pas ta caméra.
Alors, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire sans la caméra.
Attendez, là, si tu as ma cam, là, il y a quoi, là?
Là, c'est normal, t'as pas de caméra.
Ah, putain. Bon, c'est pas grave. Écoutez,
messieurs, t'inquiète, on t'entend très bien, gâteau. C'est ce qui compte.
Bon, c'est terrible, mais c'est pas grave. On va essayer de...
T'as pensé donc, quoi,
oui, vous pouvez me répéter la question, s'il te plaît, Darius, parce que je suis...
Qu'as-tu pensé de Luis Enrique sur ce match? Est-ce que pour toi, il a fait le bon choix?
Au moins, il a tenté de réagir. Il a tenté de réagir. On a vu qu'on a pris un but, 56e minute. On a tenté de réagir en faisant rentrer les trois personnes d'un coup. Ça n'a pas forcément changé le destin du match, mais ça a peut-être coupé quelque chose. Parce que moi, je voyais typiquement le match où on prend, au moment où on prend 2-1, ah, je me dis, vas-y, ça va repartir. On va se prendre un troisième dans pas longtemps. Alors que l'adversaire, il n'était pas forcément si bon que ça. C'était plutôt nous qui sont vraiment, vraiment en difficulté. Mais plus tout seul que dû à la pression de notre adversaire. Maintenant, il a tenté. Nkangui, moi, quand je vois qu'il rentre, bah, voilà. De toute façon, il ne peut faire que ça. À part crier sur le côté, faire un ajustement tactique ou rentrer, faire rentrer quelqu'un, moi, je... Je vois pas ce qu'il pouvait faire de plus. Faut aussi responsabiliser les joueurs. Le coach est bien. On l'a dit face à Newcastle. Il s'était raté sur beaucoup de choses. Il est resté vraiment dans son dogmatisme à dire non, on va faire comme ça, on va jouer comme ça, on va jouer comme ça. Mais là, pour le coup, on a peut-être perdu. Mais lui, je dis pas qu'il y est pour rien parce que quand même, il doit mener l'équipe à autre chose. Mais c'est pas la responsabilité première. C'est pas le coach cette fois-ci.
Kev, voilà. Tu veux réagir sur le sujet?
Ouais, j'en ai un petit peu déjà parlé, donc je vais faire court. Hein. Je me pose encore la question de quel coup il a voulu tenter sur un plan tactique. Mais par contre, en termes de coaching, j'ai trouvé ses choix cohérents. Il fait sortir Hernandez très tôt parce qu'Hernandez doit prendre carton rouge. Hein, je suis désolé. Sur son carton jaune, il colle sa tête à l'arbitre. Il s'est cru dans... Ouais, honnêtement, franchement, ça me fait rigoler. On aurait crié au scandale s'il aurait pris rouge, mais il doit prendre rouge direct la façon dont il réagit, donc il le sort immédiatement. Hernandez n'est pas content, mais tant mieux, au moins il montre qui est le patron. Ça m'a plu. Je trouve qu'en termes de choix, ben, Vitinha fait une très mauvaise partie, il fait rentrer Kangin, il tente un coup avec... Non, honnêtement, je trouve que les changements, tu vois, malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix sur le banc au milieu de terrain. Il fait rentrer Fabian Ruiz à la place de Ugarte. Mais concrètement, le problème c'est que Ugarte était catastrophique, mais Fabian Ruiz, il est d'une lenteur quand tu joues en... c'est très compliqué. Et Ramos, encore une fois, il fait une rentrée fantomatique, très compliquée sa rentrée. Et derrière, voilà, le seul choix que je trouve peut-être pas pertinent, je pense que Barcola aurait dû rentrer plus tôt. Il a vraiment eu du feu dans les jambes et tout vient de sa rentrée en deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'il joue 8 minutes. Et c'est le joueur le plus dangereux en seconde mi-temps. Donc, mais je trouve que ses choix tactiques sont cohérents. Vas-y, tonton.
Si, il y a un truc que je peux mettre au crédit de Luis Enrique sur ce match aussi. Je viens d'y repenser parce qu'on en avait discuté justement dans le groupe tous ensemble. Bah, si tu regardes les joueurs qu'il fait sortir, c'est que des joueurs qui ont un carton jaune. Et en fait, il se dit, bah, ce joueur vaut mieux que je sorte plutôt que bah, il se laisse prendre par le contexte et qu'il prenne un deuxième jaune. Donc, c'est quand même des choix plus ou moins mesurés et assez intelligents quand même, et faut le dire.
Après, moi, il y a un truc. J'ai un reproche quand même envers Luis Enrique. Vous l'avez pas nommé, donc je vais le nommer. C'est le fait que l'équipe est rentrée exactement avec la même attitude en début de deuxième mi-temps et qu'en fin de première mi-temps. Et tu peux t'attendre après avoir vu une mi-temps comme ça d'avoir un coach qui va resituer des fondamentaux, re-responsabiliser les joueurs, les mettre face à, les mettre face à leurs responsabilités. Alors peut-être qu'il l'a fait et que les joueurs étaient complètement genre bon, on n'écoute pas et tout ça. Mais en tout cas, tu n'as pas senti la patte du coach, ne serait-ce qu'au niveau de l'intentionnalité. Ils ne peuvent pas normalement finir la mi-temps comme ils l'ont fini et rentrer exactement dans le même mood en deuxième mi-temps. Et c'est plus... Parce que sur les choix, je suis d'accord. Alors, j'ai vu passer un Barcola, j'arriverai pas à le retrouver, mais un Barcola pas très bon, je ne sais pas, on n'est pas d'accord. Sur les changements, j'ai la même lecture en fait, que celle que vous avez nommée. Mais là-dessus, je pense que ça a sérieusement péché. Quoi.
Après, je veux juste faire une petite parenthèse qu'il ne faut quand même pas omettre de dire. On a fait beaucoup de changements cet été. On a un nouveau coach. Pour moi, c'est quasi un nouveau projet. Guardiola a mis beaucoup d'années à bâtir son équipe. à ce que ses joueurs comprennent son mécanisme, son, la façon dont il voulait jouer. Donc il ne faut pas non plus être totalement dans le déni. Je pense qu'il y a des très bonnes choses à analyser. Je pense qu'on fait un mauvais match. Mais cette équipe-là aura besoin de temps parce qu'on joue face à des équipes aussi comme le Milan. Tu sens une équipe qui est à domicile, même s'ils sont dans une mauvaise passe, et c'est le Milan. Ils ont plusieurs Ligues des Champions. Ça c'est... fait des décennies qu'ils existent sur la scène européenne. L'année dernière, ils sont demi-finalistes. Nous, aujourd'hui, sur le plan européen, mis à part 3-4 ans dans les années 95, qu'est-ce qu'on est ? On ne va pas se mentir. Notre histoire n'est pas respectée sur un plan européen. Et aujourd'hui, la preuve en est, c'est que quand il y a des supporters à l'extérieur, on n'est pas respecté et le football nous le rend, entre guillemets. Donc voilà, on est quand même un nouveau projet, il faut faire attention, il ne faut pas s'enflammer trop vite. Nous les premiers, hein, en tant qu'analystes, mais et je me mets dedans, hein, parce qu'on s'enflamme vite, on crie vite, il faut trouver une juste mesure et se dire que voilà, on part sur un nouveau cycle. On a encore le temps, ne soyons pas trop optimistes, trop négatifs, même si là on analyse le contenu de cette rencontre.
Alors très rapidement, parce qu'il y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des flashlights là, les flashlights avec le like qui apparaît en bas, qui machin, ça clignote. Il y a des moments où tout à coup l'écran il s'excite là comme ça. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais est-ce que vous dans le public vous voyez aussi ? Ah bah franchement, je pense que c'est un message subliminal qui vous
est envoyé. Ouais, il le voit, il le voit.
Vous devriez peut-être, je ne sais pas si en dessous il y a un petit truc avec un petit pouce et vous appuyez dessus. Et
on est 350 sur le live, les gars.
On est 350, on a moins de 100 likes. Franchement,
allez-y,
vous déconnez, vous tournez votre téléphone, vous faites le petit coup du pouce, et puis voilà, et puis bon, il faut bien qu'on fasse ça et tout ça, et puis maintenant, on va commencer à parler situation comptable, parce que c'est tout con, mais le PSG pouvait s'ouvrir une bolée d'air, et le PSG s'est mis une chape de plomb plutôt, parce que pour faire le classement, hein, je vais vous la faire simple, enfin, vous la connaissez tous, hein, c'est pas compliqué à retenir, ils ont tous un point d'écart, il y a Dortmund en 1 avec 7 points, Paris en 6, Paris en 2 avec 6 points, Milan en 3 avec 5 points, Newcastle en 4 avec 4 points. Et notre prochain match, c'est Newcastle, c'est au Parc, mais Newcastle, ils vont, bah, en gros, c'est do or die pour eux. Comment est-ce que vous voyez la situation comptable ? Comment est-ce que vous voyez le futur de ce groupe ? Tonton, tu commences.
Groupe, c'est vrai que là, très difficile à prédire avec le fameux 7-6-5-4, comme tu as dit. Si on était sixième de la poule, on serait quand même assez mal barré. Mais non, l'avantage, c'est que justement, on va recevoir lors du prochain match contre Newcastle. Et bon, jusque-là, à domicile, on a été performant. Je dis bien jusque-là, on ne sait jamais, je ne vais pas prédire le futur. Donc, c'est quand même un avantage pour nous, surtout que si on bat cette équipe de Newcastle, mathématiquement, on arrive à 9 points, ce qui nous laisse quand même dépendant de l'autre résultat, mais il ne nous restera plus qu'un match à jouer et il sera à Dortmund. Si tu peux écarter Milan et Newcastle lors du prochain match, en termes de distance de points, tu te facilites grandement la suite.
Et surtout qu'à Dortmund, il y a le mur jaune. Kev, je te laisse continuer.
Vas-y, Gâteau, j'avais déjà parlé.
Vas-y, excuse-moi. Oui, vas-y, Gâteau, du coup je vois pas ta tête. Je zappe, tout simplement. Vas-y, Gâteau. La situation comptable pour toi, où est-ce qu'on en est dans ce groupe ? C'est quoi le futur ?
C'est dommage. C'est dommage aujourd'hui, mais il faut savoir que les autres équipes aussi vont s'affronter. Donc ça va. On n'est pas juste déficitaire de la situation. Parce que je pense que le Milan et Dortmund aussi vont avoir une histoire. Et le Milan qui a 5 points aujourd'hui, affronte Newcastle, il y en a 4, donc ça peut faire des matchs nuls. Je pense que des matchs nuls, ça va nous servir. Newcastle à domicile, je pense qu'on peut gagner le match. Et le seul match qu'on gagnerait à l'extérieur, pour moi, ce sera contre Dortmund. J'ai de l'espoir, même si on a des difficultés à l'extérieur sur les dernières années. Je pense qu'on prendra au moins un point là-bas, donc... J'espère vraiment qu'on peut se qualifier. Ce qui est sûr, ce sera joué à la dernière journée, hein, je pense bien. Et puis, je pense qu'on va s'en sortir. Alors, premier, je ne suis pas sûr, mais je pense quand même qu'on va s'en sortir en étant premier de la poule.
Vas-y, Kev, qu'est-ce que tu penses toi, de la situation comptable ?
Concrètement, toutes les équipes peuvent finir première et dernière de cette poule. Voilà tout. Aujourd'hui, on avait la possibilité, en sachant le résultat en amont de Dortmund-Newcastle, de s'enlever une épine du pied. On l'avait dit ce midi. Malheureusement, on n'a encore pas été capable de saisir la chance et l'opportunité qui nous a été offerte sur un plateau face à une équipe du Milan AC qui n'est pas exceptionnelle. En plus, faut le dire. Hein. Et voilà. T'as encore ton destin entre tes mains parce que si tu gagnes tes deux prochains matchs, tu finiras premier de la poule obligatoirement. En sachant que tu vas à Dortmund au dernier match et ils n'ont qu'un point d'avance. Voilà, il faut gagner tes deux prochains matchs pour finir premier de la poule parce que quand on fait un bilan et qu'on regarde les premiers des autres poules, en finissant second, on va pas se mentir, tu fais premier match à domicile, match à l'extérieur, tu sors encore en huitième en février. Merci, au revoir.
Mais justement, j'ai envie de te faire réagir là-dessus parce que contrairement à ce que dit Valderalme, on a montré qu'on avait un peu de difficulté à San Siro. Si on a un peu de difficulté à San Siro face au mur jaune, qu'est-ce que ça va être? Et la question qui est derrière ça, c'est si tu peux pas compter sur ton match à l'extérieur, si tu peux pas compter sur la dernière journée pour mettre des points, à quel point le match contre Newcastle devient gérable ou ingérable ou trop de pression ou comment est-ce que vous l'anticipez
Bah,
ce match-là quoi? C'est pas dans longtemps, c'est dans 2 semaines, je crois.
non, non, parce qu'il y a la trêve internationale.
Ah oui. Ouais.
Et encore une fois, en fait, aujourd'hui, tu avais l'occasion de tuer une bête blessée. C'est-à-dire que le Milan AC, en perdant aujourd'hui, était quasiment disqualifié de cette Ligue des Champions. Voilà. Sauf que tu as le bâton pour tuer la bête, elle te l'a saisie, elle t'a mis une grande tarte dans la gueule. Donc tu relances cette bête blessée, il se retrouve juste derrière toi, et en fait, tu relances la totalité de cette poule. Donc, Newcastle bête blessée, parce que si tu bats Newcastle, Newcastle est éliminé de la Ligue des Champions. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est qu'on a, depuis le début de saison, on a eu l'occasion, même en Ligue 1, on l'a saisi que ce week-end. Mais on a eu l'occasion de repasser premier de Ligue 1. On ne l'a pas fait avant ce week-end. Contre Newcastle, on avait l'occasion de prendre une sacrée marge. On ne l'a pas fait. Ce soir, on avait l'occasion. On ne l'a pas fait. Quand est-ce qu'à un moment donné, on aura des occasions et on ne va pas le faire? Parce que Newcastle, il ne faut pas croire. Ils font un très mauvais match contre Dortmund à l'aller. Ils font un très mauvais match contre Dortmund au retour. Mais ce week-end, moi, je les ai vus contre Arsenal. Ils font un très bon match. Et j'ai l'impression que Newcastle, c'est comme nous. C'est soit très bon, soit très mauvais.
Alors, il y a cette stat, hein, elle pique. Je crois que je ne sais pas si c'est déjà arrivé, en fait. C'est déjà arrivé d'en faire beaucoup plus, en fait. Bah, on a eu une période, je pense, quand il y avait Anelka au club, à un moment, on fait Ligue des Champions et on fait beaucoup plus. Mais récemment, 2 défaites, surtout en 4 journées, ça n'a pas dû se produire souvent.
Dans la
Bah, je
poule du
l'ai appelé.
Napoli, de Liverpool, etc.
On avait fait quoi?
Je crois qu'on perd, on perd Liverpool là-bas, c'est sûr. Parce que Mbappé perd. On t'entend pas, tonton. Mbappé perd un ballon entrée de surface pour le 3-2. Mais je sais plus contre qui on avait perdu sur la première ou deuxième journée.
On perd contre Liverpool, ouais, c'est ça, le 3-2 avec Mbappé qui perd le ballon et Firmino qui marque à la fin. Napoli, je sais plus. Non, on était en
Mais
train de perdre et Di Maria marque à la fin.
c'était à
Ouais,
la
Di Maria,
quatrième journée.
il avait libéré Di
Ouais,
Maria.
Di Maria, il nous avait sauvés, ouais. Non, non,
C'était à la
finalement,
quatrième
non, c'était
journée,
un match nul.
trop pas.
Ouais, je sais plus exactement. Deux défaites en
J'ai un
quatre journées,
doute. C'est
ça
parce
me
que
paraît
2 défaites en
raisonnable.
4 journées, c'est beaucoup, hein. Potentiellement, tu peux
Non, non,
finir à
il a
ça,
raison,
sans
c'est pas arrivé
problème.
finalement, ouais.
Je pense qu'il y avait eu des matchs nuls, mais pas de défaites.
Non, mais j'avais eu le doute, mais il a raison, ouais, c'est vrai que c'est pas arrivé.
Mais pour conclure ce que j'allais dire, c'est vrai que concrètement, là, moi je le dis en toute honnêteté, si on ne gagne pas contre Newcastle, on finit même pas en Ligue Europa.
C'est possible, ouais. C'est fort possible. C'est fort possible.
Ah, les gars,
Vas-y,
commencez
gâteau.
pas à nous vendre ces choses-là, là. Aïe,
C'est pas une question de vente. Là,
aïe,
on parle de mathématiques.
Ah ouais, et
Ouais.
ce match contre
Mais.
Newcastle, il est essentiel en fait. T'as vraiment, pour le coup, t'as vraiment pas le droit de te louper.
Tout comme Newcastle n'a pas le droit.
Et un
Ça
match
dépend.
nul,
Après,
t'es
c'est dépendant
presque
du
dans une
résultat de l'autre.
obligation de gagner, quoi.
Z, si tu fais match nul, mais qu'il y a aussi un match nul entre Dortmund ou
Non,
Newcastle,
mais en
ou
fait, c'est ça, c'est
entre
ça.
Dortmund ou
Non,
Milan,
mais
ou que Dortmund
les
gagne
gars,
Milan, tu prends quand même de
il y a un
l'avance.
constat qui est factuel. C'est que tu ne peux pas aujourd'hui te permettre, dans la situation dans laquelle on est à l'extérieur, devoir être dans l'obligation de gagner à Dortmund pour éventuellement rester en Ligue des Champions. Je suis désolé, à l'extérieur, sur les 11 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est 2 victoires. Et j'imagine que dans les 2 victoires, ça doit être quoi? Le Maccabi Haïfa, sans manquer de respect à qui que ce soit, ou ce style d'équipe. Tu te dois, à domicile d'être souverain pour ne pas être obligé d'être dans le déplacement et de gagner à l'extérieur en sachant que, je le redis, à l'extérieur, c'est caca culotte.
Et justement, pour aller dans ton sens, c'est non, c'est pas se dire ça, NDG, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, c'est une analyse contextuelle, c'est juste, comme vient de le rappeler Kev très justement, la prise en compte du fait que le PSG a tendance à être faible à l'extérieur, que quand il va se déplacer à Dortmund, c'est une des équipes qui fait le plus peur quand t'es à l'extérieur, avec son fameux mur jaune qui fait un boucan dantesque. Donc c'est pas un match que sur le papier tu peux donner au Paris Saint-Germain, et du coup ça rend le match contre Newcastle essentiel. Alors après on a les armements, on est capable de battre Newcastle, on est capable de bien jouer, on est capable de le faire.
Même Dortmund.
Mais faut pas se rater. Bah, Dortmund au parc, oui, mais Dortmund à Dortmund avec ce qu'on a vu ce soir, c'est pas rassurant. Donc c'est pour ça. C'est juste que Newcastle, faut vraiment pas choper, je pense. Alors après, je pourrais avoir tort. Hein. On peut faire match nul et finalement finir premier de la poule. Vu comment la poule elle est partie, va savoir.
C'est très très homogène.
Mais ça sentirait pas bon, quoi. Une mauvaise performance à Newcastle, ça deviendrait compliqué, en vrai. Je sens ton ton un peu dubitatif. Est-ce que tu veux réagir?
Ah non, justement, on a fait le tour.
Ok, bon bah maintenant ce que je vous propose c'est de partir pour parler de ce que vous allez préférer. Hein. Je vous propose un jeu, vous devez mettre 10 tops et vous avez le droit à un flop. Tu commences, tonton.
J'ai fini.
Ah non, donc t'as zéro flop parce que je t'en laissais un, mais tu l'as pas pris, donc t'as pas de flop, ils ont tous bien joué.
Non, flop, non, comme j'ai dit, il y en avait
flop,
un.
Flop et top que tu veux.
Bah flop, il y en a un par ligne, hein, j'avais dit au début du live. Je suis obligé de mettre Ugarte qui clairement fait son match le plus horrible au PSG. T'avais l'impression, comme je disais en rigolant, qu'il avait des pots de banane sous les pieds en première mi-temps. Il n'arrêtait pas de glisser, il gagnait aucun duel. Techniquement, il s'en sortait pas. On l'a vu un peu surnager pendant 5 minutes de la 40e à la 45e, mais c'est tout. Et vis-à-vis de ce qu'il a montré dans d'autres matchs, bah forcément, je suis pas satisfait de ce qu'a fait Ugarte ce soir, donc je le mets en flop. En autre flop, ben Marquinhos, dans le sens où, même si Marquinhos a été capable de faire des bons matchs, ben là, il n'est pas au niveau. Pas au niveau soir. Et dans le sens où, ben, sur le premier but, je trouve quand même inadmissible que tu te retrouves avec trois défenseurs dans ta surface. Tu n'as que Léao qui est disponible et il arrive quand même à marquer son but. Je trouve ça quand même assez fou. Et en dernier flop, ben on va passer à la ligne d'attaque. Ben j'ai envie de mettre Kylian Mbappé parce que c'est forcément le joueur qui est censé être le meilleur joueur du Paris Saint-Germain et celui pour lequel tu es censé avoir le plus d'exigences. Et ce soir, ben, j'estime qu'il n'a clairement pas été au niveau auquel on l'attend. Donc Kylian Mbappé complétera ma série de flops. Et les tops, j'en aurai que deux. J'ai mis Gianluigi Donnarumma parce que je posais la question ce midi justement sur est-ce qu'il aurait le mental pour jouer ce genre de match à Milan avec la pression qu'il allait subir, et pour le coup il l'a eu, il a fait des parades plutôt décisives et il n'a pas, comment dire, il n'a pas subi la pression contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Donc satisfait du match de Donnarumma. Et en deuxième top, j'ai bien aimé le match de Ousmane Dembélé, même si faut dire ce qui est, pas de but, peut-être un peu de malchance, peut-être un peu de poisse, on peut dire ce qu'on veut, mais j'ai bien aimé le match d'Ousmane. Mais oui, il peut faire mieux encore, mais en tout cas, je trouve qu'après le match contre Montpellier, il est sur une lignée de deux matchs plutôt intéressants par rapport à ce qu'il avait montré depuis le début de saison.
Alors vas-y, je n'arrive pas à te situer en fait, donc je vais lancer gâteau, hein, je ne sais pas si tu es prêt ou pas, parce que je ne te vois pas. Mais,
ouais, non, ouais, je suis prêt.
Top et flop, let's go.
Et écoute, ça peut être très original, hein, moi, les flops aujourd'hui à Ugarte. On dit que côté PSG ou on peut parler aussi du Milan?
Non, PSG.
Non, PSG. Ok, c'est
Kev. On s'en fout du Milan, honnêtement.
Hein. MC Kevzor a parlé. Donc. Non, mais du coup, non, il y aura Kylian Mbappé qui a raté des occasions et qui a été timide à mon goût. Achraf Hakimi aussi qui, quand même, a été responsabilisé sur le côté défensif et a eu des problèmes face à Raphaël Léao. Et flop, j'ai pas en dire trop non plus. Mais,
Vitinha, on prévient le chat, on a droit d'en mettre que 3 des flops, donc forcément on va pas citer tout le monde.
Vitinha qui a eu quand même des moments où il a ralenti le jeu, l'accéléré à certains moments et qui m'a un petit peu gêné. Et top, honnêtement, j'ai personne. Hein. Top, honnêtement, j'ai personne. Moi, j'irai du côté du Milan pour le top, mais sinon, du côté du Paris Saint-Germain, j'ai personne.
Je te laisse y aller, Kev.
Moi, je vais entre guillemets jouer de ruse. En flop, la défense, les trois défenses, enfin la défense à trois du PSG, qui a été lamentable. Donc, je vais être un peu plus malin. Franchement, ils m'ont fait de la peine ce soir. Que ce soit Skriniar, Hernandez et Marquinhos. J'aimerais mettre Ugarte, mais malheureusement, j'attends tellement plus de certains que je vais même pas le mettre parce qu'on peut en mettre que trois. Je vais mettre Colomoini, qui, match après match, malheureusement, ne confirme pas un petit peu ce qu'on attend de lui. Il n'a pas été bon aujourd'hui. Et le troisième flop, ce sera Kylian Mbappé. Parce que dans des matchs très importants, on retient souvent en fait qu'un défenseur fasse une erreur, qu'un gardien fasse une erreur, qu'il nous fasse concéder un but. Mais aujourd'hui, quand tu fais une erreur défensive, que tu concèdes un but, et quand ton attaquant a deux face à face et qu'il ne marque pas, pour moi, ça vaut un point chacun. Et aujourd'hui, je suis désolé, Kylian Mbappé, en plus de son attitude très moyenne, a les occasions à un partout de changer le cours de ce match. Il ne l'a pas fait. Donc, à un moment donné, Kylian, moi, je crois en Kylian. Je suis content que Kylian soit au PSG. Mais Kylian, il faut que tu te réveilles parce que j'aimerais qu'on retrouve une prestation cette saison aboutie de Kylian Mbappé au PSG. Parce que prestation aboutie, ce n'est pas forcément marquer un pénalty à la 93e face au Stade Brestois ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je parle de prestation dans le contenu. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas satisfait du tout de ce que propose Kylian par rapport à, pour moi, son statut, et ça n'engage que moi, de meilleur joueur du monde ou du troisième meilleur joueur du monde par rapport au Ballon d'Or, je ne sais quoi. Je suis désolé. Mbappé, tu te dois et tu as l'obligation de faire beaucoup plus dans cette équipe du PSG. Voilà, en top, je vais mettre la première mi-temps de Dembélé parce que c'est bien dommage qu'il se soit un petit peu éteint en seconde. Mais pour moi, il fait une top première mi-temps. Bien dommage qu'il ait vraiment pas de réussite sur sa frappe pied gauche sur la barre parce que franchement, c'est pareil. À un partout, ça change le match. Je vous dis, marquer un but comme ça recrée une dynamique dans une équipe. Et je vais mettre aussi Didjo. Comme l'a dit Tonton, je vais pas forcément être là. Il a dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il a retardé l'échéance. Le coup franc de Hernandez qui sort, c'est une parade qui est magnifique. Il y en a certains qui lui tombent dessus sur la reprise de Léao. Il est pris à contre-pied. Il y a Marquinhos qui est devant lui. Il a trois défenseurs qui le masquent. C'est très, très, très difficile parce que déjà, la première parade sur Giroud, sa capacité à se relever, elle est. Moi, honnêtement, Didjo fait un gros match alors qu'il était attendu sous pression. Il a été bon au pied. Je l'ai trouvé bon. Voilà, vraiment. Et j'insiste, la première mi-temps de Dembélé. Et allez, pour mettre un troisième top rapide, je vais quand même mettre Warren, même s'il n'a pas fait une top prestation.
Merci.
Je trouve que c'est un des joueurs qui sort quand même du lot aujourd'hui en termes d'intensité, d'impact par rapport aux autres. Parce que sinon, je pourrais en sortir aucun.
En deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, des fois, il y a eu des séquences où Warren
Est en
avait été.
difficulté.
Ouais, vraiment.
Mais voilà. Et n'oubliez pas
Ouais,
de liker,
non,
les
mais
gars.
j'entends,
Likez,
j'entends.
likez, likez.
C'est un
On a
top
besoin de vous
relatif, quoi.
liker.
C'est un top. Oui, et ça aussi. Ça aussi, liker, mais c'est un top relatif. Moi, en top, hein, c'est simple. Hein, j'ai Donnarumma. Pour moi, il est exceptionnel, même sur le but. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Et t'as des plots autour de lui qui ne réagissent pas et qui laissent les héros faire ce qu'ils veulent. Enfin, voilà. Et il sort des parades exceptionnelles. Et je disais qu'il faisait un très bon match avant ces deux parades exceptionnelles. Donc, bon, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Puis sinon, après, les deux autres tops. Si, j'en ai deux. C'est Barcola et Mukiele. Mukiele qui fait une très belle entrée, qui en permanence, qui apporte devant, qui sécurise son côté. Après Milan n'attaquait plus à ce moment-là, donc c'est difficile de vraiment faire un avis sur la totalité de sa prestation. Mais son entrée est très consistante. Il amène de l'envie, il amène de la pugnacité, il amène du coffre tout simplement. Ce qui avait terriblement manqué à son équipe. Et j'ai beaucoup aimé son entrée, même si ça sera jamais le plus beau joueur. Mais il amène l'envie. Et comme l'a très bien dit Kev, Barcola, ou enfin, ça a été dit tout à l'heure, Barcola par son attitude, et c'est quelque chose que tu peux anticiper, c'est quelque chose que tu as déjà vu à Lyon. C'est un joueur qui a montré. Alors, il est jeune, le voir titulaire à tous les matchs, non. Mais en tout cas, le faire rentrer et lui donner un peu plus de temps de jeu, honnêtement, il mérite. Dembélé a fait un très bon match, mais bon, après. Ouais, vous dites la première mi-temps, c'est oublier cette glissette à la 42e, il me semble, si on veut la retrouver. où tu as plus l'impression de voir un épisode de Bénil qu'un match de foot. Mais à part ça, il a fait une très bonne première mi-temps.
Même son contrôle en fin de match sur la passe, franchement, la passe laser de Marquinhos où Dembélé marche sur le ballon à la 94e minute de jeu. Ça aussi, tu vois, aujourd'hui, même s'il a fait beaucoup d'efforts, c'est beaucoup plus difficile en termes de lucidité de faire sous contrôle.
Oui, bien sûr.
Tu vois, mais il se doit, un joueur de cette qualité technique, se doit au minimum de faire un bon contrôle et se retourner dans la surface.
Après, moi, je veux avoir une lecture optimiste dans le sens où il a quand même ce côté déchatard de l'univers. Enfin, c'est quand même, il y a un moment où ça devient ubuesque, les poteaux, les machins, les trucs.
Lui, sa femme, elle est fidèle. Hein.
Il y a un moment où ça défie l'entendement et peut-être ça peut le travailler. Et je me dis que peut-être avec un but, les choses rentreraient dans l'ordre.
Il l'a dit sur l'interview hier.
C'est vrai qu'il est agaçant. Il est agaçant à rater tant de choses. Mais vas-y, je t'ai coupé la parole, Kev. Du coup,
j'allais confirmer ce que tu disais. Il est agaçant, mais il déséquilibre tellement une défense. Ça, moi, honnêtement, j'aimerais pas. On coupe vite fait. Merci beaucoup, Tino, pour ces $2 et quelques Canadiens. Et en fait, j'aimerais pas être coach face à Dembélé. J'aimerais pas être défenseur face à Dembélé parce que déjà lui-même ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, non, mais sincèrement, les gars, on rigole, mais c'est la vérité. Quel joueur de football, aujourd'hui, dans le football, tout est stéréotypé. C'est très, très difficile de trouver des profils pareils. Ça manque dans ce football. C'est un joueur, aujourd'hui, même si on perd, c'est un joueur qui me fait lever de mon canapé. Et il n'y en a plus beaucoup qui le font aujourd'hui. Sur un aspect technique, je parle. Donc voilà. Et comme tu l'as dit, Dria, c'est vrai qu'on l'a tous hormis de mentionner. Mais Mukiele, à la différence aussi, a gagné des duels. Et rentré a gagné des duels.
Une très bonne rentrée.
Je le dis, j'insiste, il y en a beaucoup qui vont me prendre pour un fou. Mais gagner un duel, ce n'est pas forcément mettre de l'impact, etc. C'est remporter son duel défensif, c'est remporter son duel offensif. C'est tout un tas de choses qu'il faut mettre, c'est des ingrédients que tu dois mettre par ligne qui te permettent de faire une prestation plus aboutie. Et aujourd'hui, en fait, en termes de duel, j'aimerais avoir les stats de chaque joueur. Tu l'as dit sur Ougarté en première mi-temps, 2 duels gagnés sur 11, c'est famélique. Donc voilà. Likez les amis, ça serait bien qu'on ait 200 likes avant la fin de la vidéo.
On est où ? Bon, 129, non, mais si, allez, dans un dernier petit geste, en plus, on a fait le fat des périphes. Je me souviens d'une période où on se disait il faut les caler en 20 minutes, on est sur une heure, au calme. Très bien.
T'as raté le début de l'émission, on faisait des débriefs de 3 heures pour ceux qui étaient là au début
au
aussi,
calme, c'était au bien calme. Digeste. Toujours est-il, j'enchaîne avec le truc, on est au calme, on est là depuis une heure. Bah, s'il y en a qui, parmi vous, je vois le petit chiffre monter. En vrai, faites le dernier petit effort. Si on arrive aux 150 avant la fin, ce serait top. Alors après, je me souviens plus. Alors oui, petit focus quand même sur Tino Pinto qui nous a lâché deux dons. Mec, t'étais en or, c'est top.
C'est lui l'homme du match.
Son apport... Oui, alors il y a NDG qui faisait cette remarque qui est intéressante, qui va dans le sens de la question que je posais par rapport aux ailiers. Est-ce qu'on n'a pas déjà traité le cas ? Est-ce que Enrique a raison de jouer avec ce système hybride ? Est-ce qu'on a les joueurs pour l'assumer ?
Bah, en soi, je pense qu'il a tenté et je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que Léo fasse ce match-là aussi vis-à-vis du match aller qu'il avait produit. Et tout simplement, il s'est trompé. Ça arrive.
Donc, bon, on n'a pas.
D'accord.
Vas-y.
Moi, en fait, c'est une question de. Moi, je suis désolé, mais en fait, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, en fait, on a été pris par Léo. Mais si Hakimi et Dembélé font un gros match offensivement, en fait, pour moi, le pari, il est bon. Sauf que Hakimi fait un mauvais match offensivement, entre guillemets. Mais si Hakimi et Dembélé font un meilleur match que Léo offensivement, eh bien, au point, t'es devant. Donc, il y a un rapport de force qui doit s'équilibrer. Aujourd'hui, est-ce que tu préfères que ton latéral offensif défende ou que ton latéral offensif oblige l'ailier adverse à défendre ? Voilà, en fait, comment il faut le voir.
Pour moi, tu justifies trop ça par des défaillances individuelles devant. Et le truc, c'est que les défaillances individuelles devant viennent aussi à cause d'un équilibre d'équipe qu'on n'a pas trouvé. Encore une fois, moi, je le redis, ces 15 premières minutes, t'as l'impression de voir une équipe qui... c'était n'importe quoi sur le terrain. T'avais des longs ballons d'Hakimi qui partaient devant, t'avais des attaques qui partaient dans tous les sens. Mais, je sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs, je me suis emballé. Mais en gros, il y avait un manque de structure dans cette équipe. Et dès qu'on s'est dit, tiens, tu sais, c'est un petit peu comme si tu étais dans un matchbox et puis il y a les deux mecs qui se mettent sur la gueule comme des oufs. Puis à un moment, ils se mettent une pause. Bah, en fait, celui qui était comme un ouf, bah, il ressemblait à quelque chose parce qu'il était capable de taper vite. Mais une fois qu'il fait une pause et qu'il prend plus son temps, bah, il découvre que l'autre, il a des plus gros points, quoi. Alors l'allégorie, j'arrive pas à bien l'exprimer, mais on n'avait aucune structure d'équipe. Et à partir de là, tu vois, enfin, c'est à la fois des défaillances individuelles parce qu'il y a une défaillance collective, et c'est une défaillance collective parce qu'il y a des défaillances individuelles. Tu peux pas dire desquelles du deux ça vient en premier, mais je pense qu'on peut pas ignorer cette défaillance collective. Ce milieu qui n'arrêtait rien. Loftus-Cheek a fait un match extraordinaire, mais à aucun moment, ben on parlait de Warren tout à l'heure, à quel moment il a vraiment essayé de l'arrêter? À quel moment Vitinha a essayé de l'arrêter? Il y a Ugarte, on tombe dessus, mais Ugarte était un des rares à essayer de faire quelque chose. Alors il est devenu ridicule, lui aussi il peut prendre un stage chez Bénil, hein. Mais ouais, il était en train de cueillir je sais pas quoi, j'ai vu passer l'escargot dans le chat, il était en train de cueillir un escargot, etc. Mais il essayait. Mais les autres, ils étaient aux abonnés absents. Alors après, est-ce que c'est des défaillances individuelles d'eux aussi? Et enfin, voilà. Pour moi, tu peux pas seulement te réduire à dire c'est parce que si on avait marqué un autre but, le match aurait été différent. C'est une évidence. Et t'as raison. Mais on doit aussi apporter un peu plus de certitude dans le jeu. Et ce soir, elles étaient vraiment pas là, quoi.
Après, chacun son point de vue. Oui, mais en fait, t'as la possibilité d'en fait de je te dis, d'inverser le rapport de force et d'obliger l'équipe adverse à défendre. Et tu peux avoir aussi l'effet, comment il s'appelle, le coach de l'Atlético, Simeone, où en fait, t'obliges l'adversaire à attaquer, mais en fait, tes latéraux sont pas des latéraux, sont quasi des défenseurs centraux qui jouent latéral. Donc voilà, tout est question de schéma, tout est question de projet de jeu, etc., etc. Moi, je préfère que t'obliges l'ailier adverse à défendre par un latéral offensif plutôt que l'adversaire t'oblige à défendre par des joueurs offensifs.
J'entends tout à fait. Voilà, Gato, est-ce que tu voulais réagir? Tonton, est-ce que tu voulais réagir? Ou est-ce qu'on...
Non, mais écoute, c'est complet, hein.
Complet, ok. Ok. Alors, je suis obligé de le mettre en avant. Hein, je me fais troller parce que je bug souvent là-dessus et j'essaye souvent de mettre en avant ce petit temps d'avance. Et non, on l'a pas eu, qui permet aux attaquants d'avoir l'accélérateur de particules pour que les particules puissent accélérer et tout le dawa. Ceci dit, bah, moi, le petit débrief, j'espère que ça vous fait du bien. Moi, ça m'a fait un peu du bien. Ça m'a enlevé un petit peu la gueule de bois. Je vais me coucher un peu moins triste. Ce fut un plaisir d'être avec vous, messieurs. Ce fut un plaisir, Tonton, Kev, Gâteau. Merci à vous tous d'être avec nous. Merci à tous ceux qui ont lâché leur petit like. Merci à Tino Pino. Franchement, mec, tu nous as envoyé de la force. C'est super cool. Et on espère faire un débrief qui sera un peu plus plaisant la prochaine fois avec une victoire. Et surtout, n'oubliez pas, dans la victoire comme dans la défaite, ici, c'est Paris. Ciao tout le monde.